Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, je suis avec Eli, gérant de l'entreprise familiale de marmalade et de confiture Tea Together. Eli est anglais, mais il a grandi près du Touquet dans le département du Pas-de-Calais, où ses parents ont commencé l'activité en 1995. Aujourd'hui, leur pot de marmelade et de confiture haut de gamme se trouvent sur les tables des grands hôtels et des palaces, et ils travaillent également avec des pâtissiers et des chefs renommés partout dans le monde. La marmelade est indispensable pour le petit-déjeuner en Grande-Bretagne et reconnue mondialement, non seulement pour ses qualités gustatives, mais plus récemment grâce à Paddington Bear, l'ourson préféré des Anglais, qui a toujours un sandwich au goût d'orange dans sa sacoche. Et Agatha Christie n'a pas hésité à mettre du poison dans la marmelade au petit-déjeuner dans le roman policier « Une poignée de seigle ». La marmelade traditionnelle britannique est faite à base d'orange amère de Séville, avec des morceaux d'écorce. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres variétés à base de citron, pamplemousse, citron vert et orange sucré. Chez Tea Together, leurs marmelades sont reconnues pour leur parfum délicat et rafraîchissant. Parfait non seulement pour les tartines du matin, mais aussi pour les scones de tea time. Eli m'a rejoint à distance dans son bureau de sa petite fabrique dans une zone artisanale au Touquet. Donc il y a quelques bruits de circulation et de fabrication derrière, mais ils ne vont pas nuire à notre dégustation aujourd'hui. So, pinky up and let's get started. Bonjour Eli et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour la crème anglaise.
Bonjour.
Alors, tu as 8 ans quand tu arrives au Touquet. Tes parents, ils ont monté une entreprise familiale, Tea Together, de confiture et de marmelade, un peu par hasard. Je crois que ta mère a fait un pot de marmelade à la suite d'une recette qu'elle a trouvée dans un livre. Et puis, comme on dit en anglais, the rest is history, et on connaît la suite. Alors, c'est quoi ta version? Comment c'était d'arriver en France un petit garçon? Et quel était ton parcours pour reprendre la marmite de l'entreprise familiale?
Effectivement, quand j'étais petit, on vivait dans le Kent. Et on venait comme régulièrement en France, dans le Pas-de-Calais, où nous habitons toujours, donc environ une demi-heure du Touquet. Et donc moi, quand je suis arrivé, juste avant mes 8 ans, on se retrouve dans un village qu'on connaissait pas, c'est la vraie France rurale d'il y a 40 ans, enfin maintenant un peu moins de 40 ans, 35 ans. Et en plus, moi, mon frère, ma sœur, on a été dans l'école primaire dans le village à côté, c'était quand même un petit choc de culture. Je pense qu'à cet âge-là, on est...
Et de langue, peut-être.
Et de langue, complètement. Il a fallu apprendre le français de A à Z assez rapidement pour survivre à la meute dans la cour d'école. Et du coup, à cet âge-là, je pense qu'on est quand même plutôt malléable. On s'adapte vite et bien. Et mon frère, ma soeur et moi, on parle couramment français. On a gardé aussi notre anglais, ce qui est important pour nous. Et du coup, on est plutôt à l'aise avec... la vie en Angleterre, la vie en France. Mais effectivement, à 8 ans, on n'imaginait pas une entreprise de confiture. On n'imaginait pas que moi, je travaille dedans plus tard aussi. Donc, il y a eu pas mal de chemin d'ici là. Mais effectivement, oui, nous, en plus, on est vraiment venus vivre en France. C'était pas une résidence secondaire. C'était on vit en France. On a plus d'immobilier en Angleterre. C'était, on vit ici maintenant. Notre vie est ici. Et après, c'était super, parce que c'est la campagne, on a eu la chance de pouvoir monter à cheval assez jeune, on a eu des chevaux par la suite qu'on a toujours, qui ont presque 30 ans, les gros bébés de la famille, et une liberté totale les après-midi, les week-ends, pour errer dans les champs, faire des cabanes, enfin voilà, une enfance rêvée. Donc ça, c'était le côté positif.
C'est ça que tes parents y cherchaient, c'est pour ça ils sont venus en France, ils cherchaient une vie plus saine, plus rurale.
Non, ils avaient pas d'argent, ils avaient pas d'argent, ils étaient un peu désillusionnés avec l'Angleterre à cette époque-là. Uh-huh. et cherchaient un changement radical et ils l'ont trouvé. Et effectivement, la France leur a toujours plu. C'était loin sans être loin de la famille avec qui nous sommes restés très proches, en Angleterre aussi. Et mon père était cinéaste, cameraman, réalisateur de documentaires, et ma mère était producteur de films. Donc ça leur a permis aussi de ne pas être trop loin quand même de leur vie professionnelle d'avant, même si petit à petit ils ont lâché cette vie avec le développement de leur entreprise Tea Together pour les confitures. Et mais bon, cette proximité avec l'Angleterre aide beaucoup, ça c'est sûr, hein, avant et aujourd'hui aussi. Et moi, je pensais jamais travailler là-dedans. Moi, j'ai fait mes études en Angleterre. J'ai travaillé en Angleterre pendant 6 ans à Londres. Ma vie londonienne, ça roulait bien. Mais je revenais de plus en plus souvent en France quand même. À un moment, il y avait l'entreprise où je travaillais a été il y a eu un changement de propriétaire et je me suis dit, bah, tiens, c'était le moment de bouger, de faire quelque chose de différent. Et mes parents avaient besoin d'un coup de main à ce moment-là. Ils avaient ouvert une boutique de confiture à New York.
Ah ouais.
Et qui connaissait 2-3 soucis. Et du coup, bah, je suis allé là-bas 6 mois. J'ai fini par malheureusement fermer la boutique, mais c'était super pour faire mes armes. Et après, du coup, en rentrant, je me suis intéressé un peu plus à ce qu'on faisait en France.
Et juste pour revenir à la création, est-ce que c'est vrai que ta mère, elle a vraiment créé un pot de marmelade un peu par hasard et c'est de là que toute l'histoire a commencé ?
Alors moi, la version dont je me souviens, c'est que elle a surtout créé des scones avant. Elle a fait des scones. Ma mère est une excellente cuisinière, plus salée que sucrée quand même, c'est plus son truc, mais elle a fait des scones. Et parce que quelqu'un lui avait dit, il y avait un week-end british dans un centre de jardin pas loin de la maison, un très beau centre, avec un jardin à l'anglaise, donc il avait fait un week-end à l'anglaise, et on lui a demandé de faire des scones. Elle a fait les scones, elle a trouvé que la confiture qui servait avec était vraiment pas terrible du tout. Donc j'ai dit, bah tiens, peut-être mieux faire. Et du coup, elle a trouvé cette recette, elle a fait la confiture, et effectivement, elle est retournée, et tout le monde a dit, mais c'est une tuerie, c'est super. Est-ce qu'on peut en acheter ? Et du coup, l'idée, elle a germé là. Enfin, et du coup, ils ont commencé avec des confitures pour vendre localement sur le marché les premières années, avant d'être référencés dans des guides de bonne gastronomie qui leur permet de petit à petit attirer l'attention de quelques hôtels qui cherchaient des produits haut de gamme. Si possible, un peu sur mesure, personnalisé pour la petite touche d'attention finale pour le consommateur, pour le client. Et c'est de là qu'est né Tea Together, ce que nous connaissons aujourd'hui avec les confitures pour les hôtels plutôt sur le très haut de gamme, toujours cuit dans les chaudrons en cuivre, comme le premier, les premiers pots que ma mère a fait. Et toujours avec cette même qualité des fruits bio entiers, du sucre de canne, et recette assez rustique, traditionnelle en fait, qui plaît toujours autant, parce que ça c'est plutôt rassurant. C'est assez intemporel finalement, une confiture, on dit confiture grand-mère, mais c'est ma mère, pas ma grand-mère qui l'a faite. Mais il y a effectivement beaucoup de gens qui goûtent nos confitures, ça me rappelle la confiture de ma grand-mère, et rappelle des souvenirs, vous êtes dans l'Est, effectivement, on parle beaucoup, tout ce qui est confiture, mirabelle, tout ce qui est fruits, surtout dans l'Est, hein, ouais. C'est vrai que c'est une vraie culture là-bas, et on a pas mal de clients qui sont d'origine alsacienne, justement, qui parlent de l'époque de leur grand-mère, et ça rappelle les mêmes confitures que mamie faisait à la maison.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça fait plaisir.
Et ça me fait penser à aussi une grande confiturière en Alsace.
Christine Carbert, voilà, oui, elle est passée à la télé hier plus, effectivement, ouais. 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 Va pas lui faire de pub, mais non, elle fait des super produits. Elle est sur vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. En plus, elle a des beaux partenariats avec des bons ambassadeurs, on va dire, de la gastronomie.
Mais vous aussi, j'ai vu votre quelques hôtels de luxe, des palais où vous êtes présents sur le chariot de petit déjeuner, le table de afternoon tea. Donc, vous cherchez vraiment de créer un produit bio. La gamme que vous proposez, que je regardais sur Internet, il y a toujours les mélanges un peu surprenants. Une herbe qu'on ne pense pas forcément avec un fruit. Par exemple, le cerise avec l'estragon.
C'est ça, ouais. Donc c'était pour le mûrice, un des cassos mûrice qui voulait une confiture pour accompagner le plateau de fromage. Du coup, on a fait avec de l'estragon et des amandes effilées aussi, un peu plus gélifiées qu'une confiture normale pour le fromage. Et on a tellement aimé cette association qu'on l'a développée pour notre gamme de confitures à nous. Mais oui, en fait, il faut faire preuve de créativité. De toute façon, faire de la fraise tous les jours, c'est un peu ennuyeux. On a beaucoup de demandes. Nous, on travaille beaucoup avec les grands chefs de cuisine, les grands chefs pâtissiers, qui sont vraiment piqûzés à la créativité. De toute façon, au renouvellement, on suit les saisons. Il y a beaucoup de tendances culinaires aussi. Ça va très très vite, encore plus vite aujourd'hui que les Instagram et compagnie. Et du coup, charge à nous de nous inspirer de leur travail et de leur proposer aussi des parfums qui vont avoir leur place sur leur table. Effectivement, il peut pas avoir des gâteaux magnifiques avec, je sais pas, cinq entremets, etc. Et à côté, avoir une confiture industrielle banale pour accompagner le scone. Hein. Donc, voilà, nous, ça nous a fait vraiment progresser en fait de travailler avec ces gens-là. C'est des gens qui sont techniquement très très bons, qui sont très précis, qui sont vraiment un amoureux des amoureux du produit. Ça, c'est très important. On ne travaille pas avec des gens qui veulent juste une confiture
Ben
lambda.
non, t'as une
On
clientèle très,
travaille
très
qu'avec des gens.
exigeante. Donc,
C'est ça.
en fait, moi, je suis ravie parce que j'ai cherché à faire un épisode sur le marmalade depuis longtemps. Parce que le marmalade, c'est vraiment quelque chose qu'on associe avec la Grande-Bretagne, soit avec le petit déjeuner ou la reine Elisabeth, et puis, of course, Paddington Bear. Mais à la base, c'est pas du tout anglais, le marmalade, hein, et encore moins écossais, si on pense à Dundee
Oui.
marmalade. Parce que on n'avait pas assez de soleil pour avoir des agrumes. Et pourtant, c'est indissociable avec le toast du matin. Je crois que c'est un mot portugais pour une conserve de coing. Le mot coing, c'est
Exactement,
marmelos.
c'est ça exactement avec les Moors, les envahisseurs d'Afrique du Nord. Qui ont peut-être apporté des techniques avec eux, et en tout cas qui les ont fait se développer sur le continent, sur le sud du continent européen. Ces techniques de préservation de fruits avec des coings et du miel, sûrement.
Pour la petite pause histoire, c'est bien les Romains qui avaient appris des Grecs que les coings cuits longtemps et doucement avec du miel donnaient un gelée de fruits, et que cette technique s'est emportée au Portugal et le sud de l'Europe. Cette méthode de cuisson était ensuite adaptée aux oranges, et le terme marmelade continue même aujourd'hui d'être utilisé dans certains pays d'Europe et d'Amérique du Sud pour toutes sortes de conserves contenant de la pulpe des fruits. Une des premières recettes écrites de la marmelade en Grande-Bretagne se trouve en 1677 dans un livre de recettes d'Eliza Scholl Mondeley sous le nom de Marmalade of Oranges, mais c'est plutôt une pâte de fruits à cette époque. C'est les Écossais dans le XVIIIe siècle qui vont rajouter du liquide pour le rendre plus facile à tartiner. La toute première marque commerciale de marmalade était créée en 1797 à Dundee en Écosse. La famille Keller n'a pas inventé la marmelade, mais ont rajouté des morceaux d'écorce considérés bons pour la digestion, ce qui donne sa spécificité reconnue autour du globe aujourd'hui. Il est connu maintenant sous le nom générique Dundee Marmalade. Son invention est un fusil de légende et on raconte qu'un cargo d'oranges amères se trouvait sur un navire qui tombait en panne dans le port de Dundee, et que la mère Keller les a fait bouillir avec du sucre et ainsi allait inventer la marmelade. Mais la vérité, c'est qu'elle a simplement créé une nouvelle recette avec des morceaux d'écorce et des oranges amères utilisées auparavant que en médecine. Une autre légende que j'ai souvent entendue, c'est que le mot marmelade viendrait de Marie et malade, en référence à notre Marie, reine d'Écosse du XVIe siècle, et on lui a donné une cuillère de marmelade contre le mal de mer. Mais comme on a déjà vu, le marmelade vient plutôt de marmelon, le mot portugais pour les coings. Et chez vous, vous avez trois parfums de marmelade, je crois. Tu me diras si je me trompe, je crois qu'il y a le citron et Earl Grey. Vous appelez le British.
C'est ça.
Il y a un orange Calvados, ça fait penser à forcément la
C'est
Normandie. Et puis mandarine et vanille.
ça. Et les trois sont très différents. Le citron Earl Grey, ce que j'adore, c'est que, surtout en France, les gens vont dire, j'aime pas la marmelade. On leur dit, mais goûtez ça. Et effectivement, ils s'attendent à quelque chose de très, très, très acide. Et finalement, c'est bien équilibré. C'est très frais, très, très frais en bouche. Ça se marie super bien avec du fromage blanc, par exemple. Et les gens sont conquis. Et on a la mandarine vanille qui est beaucoup plus sucrée. Et en plus, le sucre de la mandarine est, on va dire, plutôt sublimé par la vanille en plus, qui ajoute une note de sucrosité aussi en seconde bouche. Mais celle-là, justement, on l'a fait en ce moment pour un parfum de saison pour le Connaught à Londres avec Nicolas Rousseau, qui est un très, 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 très talentueux pâtissier français. Et c'est son parfum du moment sur sa carte pour le afternoon tea. Et c'est un parfum qui se mange à la cuillère, sans souci. Et l'orange calva, où on a travaillé d'une façon différente qu'une marmelade, donc on travaille avec, on va faire un suprême d'orange, donc on va enlever l'écorce, avoir quelque chose de beaucoup plus en gelée en fait. En fait, c'est un peu de, voilà, c'est de l'orange en gelée avec un calvados bio de la cidrerie Le Maçon en Normandie. Un super calva qui est aussi au Collège culinaire de France, je pense, comme nous aussi. C'est ça qu'on les a trouvés. Et après, bon, la dose de calva, elle est souvent assez généreuse. En plus, ça dépend un peu de l'humeur du confiturier le matin. Mais c'est top. Franchement, c'est quelque chose qui, surtout en hiver, ça réchauffe l'estomac, surtout ça réchauffe le cœur.
Surtout au petit déjeuner.
Surtout au petit déjeuner, c'est peut-être plus adapté à un tea time le
Mais c'est
week-end.
intéressant quand tu dis que certains Français sont un peu douteux par rapport aux marmalades, parce que justement avec Felicity Clock dans le dernier épisode, on disait que en fait c'est en grandissant comme enfant avec la marmalade qu'on prend goût, parce que forcément c'est pas aussi sucré que la confiture de la fraise, et puis en plus il y a des morceaux d'écorce dedans qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais c'est en grandissant qu'on prend goût pour ces parfums citron un peu acidulés.
Oui, peut-être. Après, en France, c'est comme une belle culture des agrumes avec le sud aussi, hein. Ça n'empêche peu. Je pense que c'est plutôt une question de perception. Comme la marmelade, c'est très british. Et peut-être qu'en Angleterre, on en a, oui, effectivement, il y en a plus. Et il y a des choses aussi, il faut pas oublier, hein. Paddington Bear,
Ah, merci,
qui
Paddington
mange des
Bear.
sandwichs à la marmelade. Paddington
Oui.
Bear, mais c'est fou l'impact de Paddington Bear sur les enfants avec la marmelade.
Ouais,
Donc,
c'est vrai.
voilà, il y a des facteurs culturels qui font que. Et en France, je pense qu'on se dit, bah, c'est un truc d'anglais, donc ça ne doit pas être bon.
Bah, il y a certains marmelades qui sont plus amères que d'autres. Donc, c'est bien, comme tu dis, de commencer avec ton citron et Earl Grey, parce que je pense que c'est très citrus, très frais, et pas forcément ce
C'est
côté
ça.
amer. Alors, dans les trois, là, quel est ton préféré?
Ah bah, je dirais, j'aime bien les trois. C'est très différent. La mandarine vanille, c'est presque trop sucré pour moi. Le citron Earl Grey, c'est pas celui vers le tourne, mais c'est parce que je le connais depuis 25 ans. L'orange calva, j'ai vraiment adoré parce que il y avait un côté vraiment fondant, gourmand. J'avoue, en ce moment, c'est pas un de ceux-là que j'aime bien. On fait aussi pour une chaîne de boulangerie en Angleterre, très portée sur le haut de gamme et le bio. On fait une marmelade d'orange de Séville. Donc c'est, voilà, c'est des oranges qui viennent de la région de Séville en Espagne. C'est bio, toujours. Et là, c'est ce qu'on appelle en Angleterre le bitter orange.
La mer, ouais.
Et ça, j'adore. Franchement, ça, je mange la pelle. Ça, c'est génial. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien l'amertume. Ma femme est pâtissière de formation. Elle est prof de pâtisserie maintenant, ici en lycée professionnel. Et elle aime pas trop tout ce qui est agrumes et l'amertume. Elle dit, mais comment tu peux manger ça? J'adore. C'est ce que j'ai mangé ce matin. Voilà, ça fait une semaine que je mange la même marmelade tous les matins. Ouais, moi, je trouve ça excellent parce que c'est fort en goût, c'est honnête, on sait exactement ce que c'est. Il y a pas de chichi.
Ça réveille le matin.
Elle se réveille, oui, ça réveille les papilles.
Alors, je ne sais pas si tu pourrais nous donner une recette pour mon site. C'est peut-être des secrets de fabrication.
Non, non, pas forcément. Oui, on peut. Après, en fait, le plus important dans tout ce qui est, surtout tout ce qui est marmelade, c'est être attentif à la cuisson. C'est vers la fin de la cuisson où ça se fait. Et c'est bien laisser déjà le temps de la confiture de bien frétiller. En fait, il faut que toute la pectine du fruit se libère et qu'on fasse corps avec le sucre, avec l'eau aussi, qui est présente dans les fruits et qu'on rajoute un peu aussi. Donc le temps que tout ça se fasse, il faut le laisser temps de faire. Mais surtout, après, il faut pas trop cuire, faut pas brûler. Et ce sont plus important à la fin, c'est nous, on travaille toujours comme ça, même si on va sortir des centaines de kilos par jour. On travaille avec une louche. Donc, on vient mettre une cuillère, prendre quelques gouttes de confiture, on va les poser sur une plaque froide, on va laisser un peu, et puis après, on va pousser la confiture pour voir si ça fait des plis, en fait.
De
Si ça sort un
gélification.
peu. Voilà, un peu comme si vous avez vu des bonbons en train d'être façonnés, un peu le même style. Et du coup, ça fait des plis, c'est que la confiture est cuite, hein, c'est qu'elle va figer. Mais c'est ça le plus important. Le reste, bon, les recettes, il y en a des milliers, mais le plus important, c'est ça. C'est de laisser le temps de faire et après de juste se fier à son instinct, en fait, pour la fin de cuisson.
D'accord. Mais là, tu parles comme un spécialiste. À la fin, imaginons, alors je doute très fort que quelqu'un ne connaît pas le marmelade.
Ouais.
Comment tu décris, qu'est-ce qui va dans le marmelade? Quels sont les ingrédients de base?
Bah c'est oui, c'est alors ça dépend. Nous, notre marmelade orange classique, par exemple, c'est pas une de celles dont on a parlé, mais c'est des oranges, des citrons qu'on va couper, qu'on va faire pas blanchir, on va les faire bouillir tranquillement dans de l'eau pendant pas mal de temps quand même, hein, jusqu'à temps que les morceaux d'écorce soient bien tendres, et après on va ajouter le sucre. Et du coup, ça nous permet d'avoir quand même bah, des morceaux. Il faut de l'écorce. Après, nous aussi, en Angleterre, on trouve beaucoup de marmelade, ce qu'on appelle le fine cut, avec des toutes petites lamelles d'écorce. Nous, on n'aime pas. Nous, on aime bien les trucs un
Chunky.
peu plus costauds. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir des écorces, mais des écorces qui sont quand même fondantes. Voilà, c'est tout simple, hein. Après, voilà, il faut faire attention. Faut pas prendre des citrons, bah, des agrumes qui sont trop vieux, trop jeunes, il y a des choses comme ça. Il faut qu'ils aient quand même pas mal de pectine dedans. On peut rajouter un peu de jus de citron, avec ça on est sûr que ça devrait figer. Mais voilà, le test de la goutte est environ de tête, je dirais environ 55-60% de fruits pour 40% de sucre.
D'accord,
40-50%
bah,
de
c'est
sucre,
comme pour tout,
ça va
hein,
être
c'est les
bien.
bons produits à la base. Et donc, les clients français, est-ce qu'il y a un best-seller en France dans votre gamme? Qu'est-ce qu'ils
Ah
apprécient?
bah toujours la fraise, hein. C'est dur
Ah
de
ouais.
faire mieux que la fraise, hein. Tout le monde veut des pots de fraise chez eux. Après moi j'ai eu beaucoup de succès. En fait faut faire goûter aux gens, mais moi j'aime beaucoup la myrtille, la fleur d'oranger. Moi j'adore ce
Ah
parfum.
ouais.
La fleur d'oranger qui vient amener un peu de fraîcheur justement à la myrtille, qui a quand même son côté terreux, qui me plaît aussi pour le voilà parce que voilà.
Mais où est-ce qu'on peut les goûter? Parce que là, je suis un peu frustrée. Je les ai vus sur le site. Je ne peux pas forcément me payer le palace, l'hôtel de luxe pour aller le goûter.
Bah si, il peut, juste pour un petit
Où
déjeuner.
est-ce que je vais les trouver?
Non, bah après, c'est vrai qu'on est en train de mettre à jour les points de vente, il faut qu'on avance rapidement sur le sujet. Effectivement, on est présent dans pas mal de biocoop, mais sur la région Hauts-de-France. On est présent dans des épiceries fines, mais très basées Hauts-de-France, effectivement. À Paris, on a quelques points de vente comme Roy's Bakery, dans le 9e, et ils ont un café au bon marché aussi. Je pense que d'ici cet été, on devrait avoir beaucoup plus de points de vente disponibles et on les mettra sur le site.
Ah, super, super. Alors moi, je suis un peu bizarre peut-être, mais j'adore le marmelade avec le fromage. Bon, finalement, c'est peut-être pas si bizarre que ça, parce que même parfois en France, on sert un petit peu de peut-être pas
De
confit ou de
confit,
gelée
ouais.
avec le fromage, mais je trouve ça se marie aussi très bien avec les saucisses anglaises, les saucisses Cumberland. Et là, récemment, j'ai goûté une tarte à la marmelade que je trouvais absolument délicieuse, que je vais essayer de faire parce que vraiment, je trouve ça réveille les papilles à la fin du repas, c'est pas lourd, c'est pas trop sucré. Et vraiment, je trouvais ça délicieux. Et toi, tu as des choses avec le marmelade ou tu es vraiment un puriste et c'est juste sur la tartine du matin?
Ouais, j'avoue, je suis un peu puriste là-dessus, mais c'est aussi une question de temps. Effectivement, je travaille pas mal et je pars tôt le matin, donc voilà, je veux un truc facile, bon, qui va me caler jusque midi, et le soir, je rentre trop tard pour le goûter,
Ah.
donc et j'ai pas souvent le temps de goûter au travail. Le week-end, et le week-end, on va plus être en mode gâteau. Effectivement, on a deux jeunes enfants aussi, dont un qui adore le chocolat. Donc, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que je l'ai vu l'autre jour, il mangeait sa tartine de Nutella et il a pris ma marmelade d'orange amère. Il a mélangé les deux, il aimait
Ah
bien.
bah oui,
Donc ça,
mais
c'est
c'est
rassurant.
rassurant ça. Et puis l'orange chocolat, c'est un très bon mélange.
L'avenir est sécurisé. Ouais.
Ah bah super. Alors, pour terminer, Eli, c'est une tradition dans mon podcast que mon invité raconte un petit faux pas culinaire en anecdote par rapport à son plat ou son produit dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que tu as une petite histoire à partager avec moi?
Alors moi, forcément, je suis quelqu'un d'un peu maladroit. On fait beaucoup de séances de dégustation et ça m'est déjà arrivé de faire renverser le pot sur le pauvre visiteur qui venait déguster la confiture haut de gamme et qui se retrouve avec de la marmelade plein les chaussures, plein les chaussettes.
Décollante.
Et ça, bah ouais, c'est en plus, on sait pas trop où se mettre. On a tendance à paniquer dans ces moments-là, à essayer de trop bien faire du coup, à prendre toutes les serviettes disponibles et tout le monde regarde, c'est qui le monsieur bizarre par terre, accroupi en train de cirer les chaussures de quelqu'un à la confiture. Donc voilà, je sais pas si c'est une vraie,
Ah
voilà,
si.
si c'est vraiment un truc bizarre ou spécifique aux Anglais ou aux Français, mais voilà, le cirage de chaussures à la marmelade, ça marche
Tu peux
pas.
peut-être lancer une idée là.
C'est peut-être, hein, voilà, c'est
Je suis
ça.
sûre que ça brille bien après.
Ouais, c'est ça.
Mais écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert tes confitures et tes marmelades. Comme je t'ai dit, juste un peu frustrée, mais je vais à Paris bientôt. Je vais aller chez Rose Bakery alors
Parfait,
pour les
ouais.
goûter. Et merci aussi. Tu vas m'envoyer une recette que je vais mettre sur le site web.
Bah écoute, merci et puis, hâte de rayonner dans toute la France avec nos marmelades et de faire découvrir ça à tous les
Oui, vive
Français.
la marmelade. Pour fêter cette tradition de marmelade en Grande-Bretagne, il y a des Marmalade Awards à Delmenhouse House dans le Lake District chaque année, qui reçoit plus de 2000 pots de marmelade artisanale du monde entier pour le concours. Donc, si vous fabriquez déjà votre propre marmelade, pourquoi pas tenter votre chance? Cette année, le concours aura lieu le samedi 22 avril. Et si vous êtes sur place, vous pouvez aller pour assister et déguster lors d'un all-day breakfast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la crème anglaise. Vous pouvez trouver la liste des revendeurs de Tea Together sur leur site et vous pouvez manger des confitures, les marmelades chez Rose Bakery à Paris ou pourquoi pas aller les goûter au salon de thé des parents d'Eli, The Tea Room, à Saint-Rémy-aux-Bois, à quelques kilomètres de Touquet. Ils organisent également des ateliers de fabrication de confitures et de marmelades. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon!